Bon, je suis un petit peu intimidé de prendre la parole après autant de choses si techniques, parce que je me sens aussi très béotien ou profane, comme tu l'as dit, Michel, puisque je suis littéraire, je suis maître de conférence en littérature française, même si je m'intéresse aussi de plus en plus au numérique, j'ai l'impression de le faire de façon très empirique et en amateur, et de ne pas réussir à passer, à sortir de cette impression-là. Heureusement, pour m'aider à préparer cette intervention, j'ai pu compter sur Cécile Brémond, qui est ingénieur d'études dans le centre Sébachère, qui est le centre dans lequel je travaille, qui aurait aimé être là aujourd'hui. C'était plus simple pour elle de se reposer. Elle va bientôt avoir un enfant. Ça lui limitait de la fatigue et des transports. Donc je lui ai proposé qu'on prépare ensemble la communication et que je porte sa voix autant que la mienne. En tout cas, je prends les bêtises que je dirais éventuellement pour moi tout seul. Bien sûr, pas pour elle. Le centre Sébachère dans lequel nous travaillons, c'est d'avoir une bibliothèque, pas aussi belle que celle de Dublin, mais quand même une belle bibliothèque spécialisée dans le 19e siècle, rattachée à une UFR de lettres. C'est un centre de recherche sur la littérature, l'histoire, la culture du 19e siècle. Et depuis quelques années, c'est l'un des endroits où on s'intéresse au numérique et à ce qu'on peut en faire pour la recherche à l'Université Paris Diderot. Pour l'année 2019, nous avons monté une action de recherche structurante, donc pour avoir un petit financement pour continuer à exister, à faire avancer nos projets, dont j'ai été porteur et que nous avons intitulé « Initiative d'édition numérique pour la recherche ». Alors, par édition, nous entendons à la fois le sens scientifique d'éditeur en anglais, la responsabilité intellectuelle, la production ou l'enrichissement ou la vérification d'informations, mais aussi le sens professionnel, le sens de publisher, la mise en forme, la diffusion, la distribution, ou plutôt du côté numérique, peut-être faudrait-il parler de référencement et d'accès. Pour l'instant, nous faisons de l'édition numérique et pas d'édition papier, même si j'y songe de plus en plus. Nous produisons des objets numériques et nous les publions avec des chaînes éditoriales qui sont peut-être un peu différentes et surtout moins balisées que la chaîne éditoriale de l'édition classique imprimée. Pourquoi édition pour la recherche? Ça signifie deux choses. D'une part, du point de vue de ceux qui produisent l'information, nous traitons et nous publions des sources ou des résultats de la recherche, ou les deux à la fois. Et d'autre part aussi, du point de vue des usagers, nous publions pour des chercheurs potentiels. Nous publions de façon à rendre exploitable ce que nous rendons accessible pour la recherche. Dans mon intervention d'aujourd'hui, je vais parler brièvement à partir de deux projets d'édition numérique qui sont des projets d'édition de sources primaires, si l'on peut dire. Le premier, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le cadre d'activités du DPN. C'est un projet qui s'appelle la Fabrique de la Révolution, la FabRev, dirigée par Paul Petitier. Vous avez une image de ce que nous essayons de traiter. C'est un projet qui consiste à numériser et à encoder, enfin à rendre exploitable 2000 papiers manuscrits qui sont presque tous de la main de l'historien Jules Michelet, qui sont ces notes préparatoires pour la préparation de l'histoire de la Révolution française, qui est sans doute son œuvre majeure. 2000 papiers qui ressemblent à ça, certains sont beaucoup plus courts, qui sont très intéressants à déchiffrer, à traiter, à rendre, à essayer de... Voilà, c'est très intéressant d'essayer d'en faire quelque chose. Et puis un autre projet beaucoup plus réduit, qui est un projet d'édition critique collaborative. Il s'agit de republier en livre numérique au format EPUB des ouvrages anciens et oubliés ou quasi oubliés. Nous en sommes déjà au quatrième ouvrage, ce sont des ouvrages assez courts. Pour trois d'entre eux, c'est un travail que j'ai fait avec des étudiants de licence, de troisième année de licence. Et donc en un semestre, nous prenons un ouvrage, alors la période qui m'intéresse comme chercheur depuis un moment, c'est celle de la Révolution française. Donc je prends un ouvrage de cette période-là. Le premier, c'était celui-ci, « Les causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Terminator ». Vous avez la page de titre originale. Celui-ci a été réédité une deuxième fois en 1825, et puis plus du tout ensuite. Et nous en avons refait une édition en utilisant des outils numériques qui permettent un travail collaboratif et qui permettent de gagner du temps. Le point commun entre ces deux projets, c'est que nous traitons et publions un matériau qui est presque exclusivement textuel. En vérité, parfois, on a des petites problématiques aussi liées à des images. Deuxième point commun, le travail collaboratif, qui dans les deux cas implique des contributeurs qui ont des degrés d'expertise très variables et des centres d'intérêt ou même des... Ce n'est pas seulement une question de degré d'expertise, c'est que leur domaine de spécialité, de connaissances peuvent être très variables et toutes ces personnes travaillent ensemble dans un cas ou dans l'autre. Troisième point commun, c'est l'enjeu du temps. Pour la fabrique de la Révolution, pour la transcription des papiers Michelet, c'est comment en venir à bout de ce matériau difficile à traiter et très volumineux. On en a fait 2 volumes sur 6 en 4 ou 5 ans, donc on aimerait bien accélérer un peu. Et pour l'édition critique, comment tenir des délais qui sont contraints, qui sont les délais de l'année universitaire, puisque je l'ai dit, je fais ça avec des étudiants en un semestre. Donc dans les deux cas, on a une recherche d'efficacité qui peut passer par l'automatisation de certaines tâches. Donc je me suis demandé, pour préparer cette intervention, ça a été l'occasion de me demander qu'est-ce qu'on a automatisé dans nos processus de travail pour ces deux projets, qu'est-ce qu'on a réussi à automatiser, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin dans l'automatisation, est-ce qu'on pourrait gagner davantage. Et pour développer, pour essayer de répondre à cela, je vais simplement suivre la chaîne éditoriale dans ses grandes étapes sans être exhaustif, en parlant de l'établissement du texte, dans un deuxième temps de l'enrichissement de l'information, dans un troisième temps de la publication et dans un quatrième temps des usages. Alors, pour l'établissement du texte, donc le passage du document physique à une information numérisée. Dans les deux cas, un objet matériel a été photographié. Chaque papier de Michelet a été photographié, chaque page de l'ouvrage à éditer a été numérisée et transformée en un fichier image. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette étape préalable, sinon pour souligner ici une première fois le rôle des prestataires extérieurs. On a fait appel à un prestataire de service pour les papiers de Michelet et on utilise les textes numérisés par la BNF pour les éditions critiques. Que ce soit les textes déjà numérisés ou maintenant, ils répondent très rapidement, en 2-3 semaines, pour un forfait de 45 euros, c'est-à-dire rien, on peut faire numériser n'importe lequel de leurs ouvrages. Donc c'est très précieux. Deuxième élément, un peu moins évident, numériser le texte, c'est-à-dire obtenir ou produire l'information sous la forme d'une chaîne de caractères. Pour l'édition critique, on travaille à partir de textes ossérisés et de l'ossérisation qui est faite par la BNF, avec des erreurs à corriger. Pour ces textes-là, les textes qui ont 200 ans, dans le contexte de la Révolution, on a imprimé très vite, le travail éditorial était fait de façon accélérée, dans une certaine urgence, donc le résultat n'est pas de très bonne qualité. Le taux d'erreur est de 5 à 10%, c'est raisonnable. Mais ça suppose quand même un gros travail humain pour arriver à un texte correctement établi. Pour le premier ouvrage, on a fait la correction entièrement manuelle sur la plateforme Planète, qui est une plateforme maison, dont je vais vous dire un mot dans un tout petit instant. Mais je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien, et je me suis mis à utiliser, à partir du deuxième ouvrage, Wikisource. Parce que les outils développés pour Wikisource, sur l'interface mise à disposition des utilisateurs de Wikisource, sont assez bien faits et surtout permettent de gagner du temps grâce à l'automatisation d'une série de micro-tâches. Des gadgets que l'on peut utiliser permettent la détection automatique des erreurs d'OCR, à la fois par un correcteur orthographique qui souligne en rouge les mots qui ne sont pas reconnus comme étant présents dans un dictionnaire, de façon très banale, et par un autre système qui fait apparaître les défauts de typographie, notamment de ponctuation, en surbrillance. La correction automatique de la typographie est aussi un outil très intéressant. En cliquant sur un simple bouton, on règle tous les problèmes d'espace après ou avant les signes de ponctuation. Autre élément intéressant, la modernisation automatisée de l'orthographe, si on le souhaite, enfant au pluriel, qui se trouve dans les textes de cette époque sous la forme E-N-F-A-N-S, sans le T, et corrigé automatiquement en franc affecté si on le décide grâce à un petit système de dictionnaire dans lequel on peut intervenir sans avoir besoin d'être de grandes compétences techniques. Voilà, ça c'est pour l'édition critique. Pour la fabrique de la Révolution, donc du côté des papiers nichelés, cette étape-là du travail, transformer l'image en une information textuelle, est pour l'instant entièrement humaine ou manuelle. Nous saisissons le texte, nous le lisons tant bien que mal, vous l'avez vu, je peux vous remettre l'image, nous lisons et nous saisissons ce que nous arrivons à lire. On se dit régulièrement, étant donné notre corpus, la spécificité de ce corpus, il est à la fois très volumineux pour nous, mais pas si volumineux que ça. Il n'était sans doute pas possible, il n'aurait sans doute pas été possible d'essayer d'automatiser la reconnaissance de caractère. À vous écouter cet après-midi, je ne suis plus si sûr que moi. Je ne sais pas, je pose la question, et puis comme je dois aller vite, je ne la développe pas. Simplement, je vous signale un autre problème, c'est que notre but est d'arriver, je vous montre déjà le résultat, d'arriver à ceci. D'un côté, le papier, l'image du papier, et de l'autre, une transcription qui n'est pas vraiment une transcription diplomatique. Je ne sais même pas si on peut encore parler de pseudo-diplomatique, mais quelque chose qui permette rapidement de s'y retrouver, de passer de l'un à l'autre et de lire le texte et de le retrouver et de le vérifier s'il faut. Et donc ça suppose au moment de la transcription d'indiquer à peu près les décalages de texte. Et ça a été un casse-tête depuis le début. On le fait en renseignant des valeurs de blanc pour indiquer des marges par rapport à la marge de gauche. On extrait certains encadrés. L'encadré qui est là pour monastère, on le sort un petit peu dans la marge, on écarte certaines choses. On est à la fois dans l'établissement de ce qui va être publié et déjà dans l'interprétation, mais avec toujours ce premier souci qui est de rendre le texte lisible et interrogeable automatiquement. Comment automatiser cela? Alors, on a avancé un petit peu dans la recherche, en tout cas cette année, grâce à Nicole qui a fait travailler deux de ses étudiants sur ce problème, qui ont mis au point une application qui permet de sélectionner des morceaux de texte et de les positionner ensuite sur l'image du document original. C'est un pas en avant intéressant, avec pour l'instant une limite importante, c'est que l'information est traitée au moment où le texte est déplacé sous une forme d'image et pas sous une forme de texte. Donc on perd la reconnaissance de texte, on peut positionner les choses au bon endroit, on pourrait avoir une image plus fidèle avec un texte transcrit, donc plus lisible, mais par contre on ne pourrait pas faire un CTRL-F et retrouver, ou alors il faudrait une étape supplémentaire pour pouvoir retrouver aussi cette information-là. Donc c'est peut-être ça qu'il faudra imaginez si on veut aller plus loin dans l'automatisation de cette partie-là. Voilà pour le premier point. Deuxième point, l'enrichissement de l'information, même si j'ai commencé à en parler parce que les frontières entre établir le texte et enrichir l'information sont loin d'être étanches. Pour l'édition critique, il s'agit de rédiger des notes explicatives et interprétatives, et c'est là que nous avons cette petite plateforme qui est une création du Centre Sébachère, ou pour le Centre Sébachère, par une étudiante en master d'édition numérique qui, il y a 3 ans, a créé cette plateforme Planète, plateforme numérique d'édition de texte, Planète. Et donc, c'est un outil collaboratif, même s'il a ses limites, mais d'annotation. On peut, si on a le goût de la précision et de la catégorisation, utiliser différents types de notes. Moi, je n'en utilise qu'un. Je dis toujours à mes étudiants d'utiliser un seul bouton et de ne pas chercher à savoir s'ils sont en train de faire de la notation génétique ou de la notation critique, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais en tout cas, ils peuvent se placer dans le texte, cliquer sur un bouton pour faire apparaître une note, commencer une note. Un autre peut venir changer la note. On a le nom du premier auteur de la note. Et en fait, ce qu'ils font là, c'est... ils font de l'enrichissement du texte d'origine, et derrière, il y a un fichier XML avec des balises qui vont se placer avec des notes. Et donc l'outil automatise d'une certaine manière la création d'une note et permet aux contributeurs de le faire sans avoir besoin de rentrer dans le code. C'est la même chose du côté, enfin c'est le même principe un petit peu qu'on a mis en place de façon plus élaborée, je crois, pour la Fabrique de la Révolution en utilisant Oxygen. Donc là, on utilise un logiciel propriétaire que vous connaissez. Dans Oxygen, on peut travailler directement comme ceci, en écrivant en XML, en ouvrant les balises. Mais on a, dès le départ, mis en place un mode auteur, c'est-à-dire créer une CSS, une feuille de style, qui permet un affichage sans balise pour que des utilisateurs débutants ou qui n'ont jamais du tout rencontré le balisage et qui sont, pour qui ça prendrait peut-être trop de temps, ça poserait trop de difficultés de l'apprendre, peuvent quand même encoder. Et dans ce cas-là, on a même des raccourcis clavier. Si je veux apporter une information sur ce mot-là, je peux faire... avec CTRL E, ouvrir cette fenêtre et choisir un type de balise et ensuite renseigner les attributs, la valeur. Donc là aussi, il me semble que c'est de l'automatisation de micro-tâches dans la partie de travail, de ce travail éditorial. Alors, ce qui n'est pas du tout automatisé, et en réfléchissant avec Cécile, on s'était dit que là, il y aurait peut-être quelque chose à réfléchir, c'est la recherche d'informations. Parce qu'on passe notre temps, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, vous imaginez l'édition critique sur la plateforme Planète, les étudiants, en fait, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficulté? Des problèmes de vocabulaire. Vocabulaire ancien, fin 18e, début 19e, des mots ou vocabulaire spécifique relatif à l'histoire de la Révolution française. Donc, ils vérifient des définitions sur un dictionnaire. Je les encourage à utiliser plutôt le TLFI. Souvent, ils atterrissent sur Wikipédia. Quand on travaille sur les papiers Michelet, en fait, pour la lecture même, il y a des moments où on n'arrive pas à lire. Et donc, pour arriver à lire, on va lire le résultat. On a trouvé un passage qui nous permet... un mot-clé, un nom propre qui nous permet de retrouver dans une version numérisée de l'histoire de la Révolution française. On va rechercher le passage que Michelet a écrit à partir de ce papier-là. On va lire ce que Michelet a écrit à partir de ce papier-là et ça va nous donner la solution. On va comprendre un mot qu'on n'arrivait pas à lire parce qu'on le retrouve dans le résultat final. Ou bien, on remonte à la source, puisque souvent ces papiers sont des notes de lecture. Donc, on voit là, j'ai sous la vie 239... sous la vie 239, on sait ce que c'est. Si j'ai le temps, je vous montrerai ce qu'on en a fait. On remonte à la source et on va lire la source et on comprend ensuite ce qu'a voulu dire Michelet. Et ça va nous permettre soit de comprendre ce qu'il a écrit, soit de lever une ambiguïté pour une forme normalisée. Je donne un mauvais exemple, Robespierre, est-ce que c'est Maximilien ou Augustin ? C'est un mauvais exemple parce que la question se pose presque jamais, mais je n'ai pas eu le temps d'en préparer un autre. Vous voyez, ce genre de choses-là, on a besoin de savoir de qui s'agit-il exactement, et donc de faire des vérifications. Et on passe notre temps sur Google. Et c'est là qu'on pourrait inventer des outils pour orienter, accélérer une partie de cette recherche, peut-être. Troisième point, ça prendra 30 secondes sur la publication. J'ai pas grand-chose à dire. Pour l'édition critique, on fait une extraction du fichier XML depuis la plateforme Planète. On applique une feuille de transformation XSLT et on obtient un EPUB, mais ça n'empêche pas qu'il faut tout revérifier, tout relire, tout vérifier, faire des corrections. Et pour la Fabrique de la Révolution, là aussi, les fichiers XML qui sont édités... par Oxygène sont validés, puis versés sur un site de publication où ils font l'objet d'une interprétation, vous l'avez vu, par un outil de visualisation. Là, simplement, ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup de manœuvres dont Cécile pourrait beaucoup mieux parler que moi, et sans doute qu'une des un des chantiers d'automatisation les plus intéressants serait d'aller vers la construction d'un outil ou d'un méta-outil qui permettrait de tout intégrer et de ne pas passer son temps à déplacer des fichiers, à les traiter avec 10 ou 15, objets, 15 outils différents. Il est 17h01, je peux parler 5 minutes des usages ? Alors, les usages, quatrième et dernier point. Là, je me place du côté des lecteurs ou des usagers ou utilisateurs de ce que nous publions. Premier usage et le plus fondamental, valable pour toutes les éditions numériques, pas seulement pour ces projets spécifiques, c'est la possibilité d'automatiser la recherche d'une chaîne de caractères, autrement dit le contrôle F. Et ce qui peut sembler idiot ou évident, mais c'est vraiment une révolution dans le rapport à l'information textuelle. Avant, pour savoir si Michelet parlait d'Olympe de Gouges, il fallait tout lire. C'est long. Maintenant, on a l'information de façon quasi immédiate. C'est le point de départ de possibilités nouvelles, traitement statistique, distant reading, text mining, fouille de texte, etc. Alors pour Michelet, on a mis en place... On a mis en place un outil de recherche tout simple, un moteur de recherche simple. Et je posais la question pour Olympe de Gouges. Je peux chercher. Ça me donne d'abord le papier. Et si j'ouvre le papier, le mot Gouges apparaît en couleur. Donc là, on a un outil qui a été mis au point par le développeur informatique avec qui on travaille, qui vraiment... automatise une partie de la recherche et fait gagner un temps considérable. Et puis, autre chose, on a construit des index qui ont pris de plus en plus d'importance dans le projet, et en particulier le plus intéressant des index, c'est celui des références bibliographiques. Alors, j'en ai pas dans ce papier, c'est bien. Si, là, j'ai page 27. Page 27, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est les œuvres de Roland. Alors, qu'est-ce que si je peux avoir déjà l'information qui est un petit peu élucidée, mais surtout, je peux cliquer dessus et arriver à l'entrée d'index où j'ai l'information complète et un lien vers la source. Et donc, en deux clics, je peux passer du papier de Michelet à sa source. On s'est posé la question en réfléchissant à la présentation d'aujourd'hui. En fait, on nous a fait un reproche. On nous a dit, oui, mais c'est la source, et on arrive à la page de titre du volume, et puis ensuite, il faut encore chercher. Donc, il faut avoir retenu que c'est la page 27, et puis aller chercher en défilant. Encore qu'à la BNF, ça marche bien, parce qu'ils ont très bien gardé l'information sur les numéros de page, donc la page 27, elle est là. Bon, c'est pas si long, hein. En fait, pour un chercheur, c'est quand même, ça va quand même assez vite. En moins d'une minute, il passe du papier de Michelet à la source. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans l'automatisation ? Est-ce qu'il faudrait, à partir de page 27, arriver tout de suite à cette page-là ? On gagnerait en confort ? Je suis pas certain qu'on gagnerait en information. Je sais pas si ça ferait des informations nouvelles, exploitables de façon... statistiques ensuite.
Il y a un permalien au moins, je crois pas. C'est déjà mieux que d'aller à la BNF.
Voilà, pour l'édition critique, oui, ce sera la toute dernière chose avant un mot de conclusion. Pour l'édition critique, du côté des usagers, on a un problème, c'est que les notes sur les fichiers EPUB, surtout si on les lit comme ils sont faits pour être lus, c'est-à-dire avec une liseuse, ça marche vraiment pas bien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser de lire un EPUB sur une liseuse et d'aller consulter les notes. À chaque fois qu'on clique sur une note, en fait, c'est un lien. Et les liens, c'est très lent sur une liseuse. Ça va ouvrir une autre section du texte. Et puis ensuite, pour revenir en arrière, souvent on a des petits bugs. Là, ça ne dépend pas de nous. C'est le développement de l'EPUB d'un côté et puis ensuite des appareils qui sont vendus pour les lire. Mais... il y aurait beaucoup de choses à inventer pour que ces notes soient beaucoup plus utilisables. Mais la note, de toute façon, la note de bas de page intéresse peu les éditeurs, et c'est vrai aussi pour le numérique. Pour conclure, je répète ce que j'ai dit très rapidement il y a un instant. sans doute que l'un des gains de temps possibles les plus importants serait avec des interfaces plus intégrées, en évitant de multiplier les espaces et les outils auxquels on recourt. Oui, puis j'ai pas parlé des moments où on ouvre le texte en Word ou dans OpenOffice, des expressions régulières, des choses comme ça. Enfin, on passe notre temps à bricoler avec des outils différents. On gagnerait beaucoup à unifier, à intégrer un petit peu tout ça, sans qu'on gagnerait en temps et en efficacité. Voilà.
Merci beaucoup.